Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar.
Starter en direct et en podcast sur indestar.fr.
Bienvenue sur Indestar et bienvenue dans Starter pour cette nouvelle émission du lundi soir. On est content d'être avec vous ce soir.
Ouais.
Et on est content parce que sur la chaîne YouTube, on est à 176 abonnés aux dernières nouvelles.
Ouh.
Ça ne fait que augmenter, on vous en remercie.
L'essai
de la 205 paru vendredi cartonne.
A fait un carton plein.
Exactement. Ah. Voilà, donc allez suivre, hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, c'est gratuit. Vous cherchez la chaîne, vous savez, vous êtes dans YouTube et vous mettez chaîne et vous tapez Starter et vous allez directement tomber sur le logo de l'émission que vous connaissez. Et là, vous pouvez la rejoindre et suivre toute notre vidéo. Ouais.
Tu tapes étoile montante et tu tomberas sur Starter.
Ah
non, ça marche pas.
Ouais,
comme
mais
ça.
Un peu plus difficilement, je pense.
Ouais. Faut chercher plus loin.
Bon, évidemment, vous avez accès directement depuis www.indestar.fr, rubrique Starter. Également, Teddy Antoine ce soir. Comment vont les gars?
Ça va très bien.
C'est vrai. Comment s'est passé votre week-end, Teddy?
Ah, y a pas beaucoup de moteurs dans mon week-end.
C'est vrai. C'était
Y avait plus de nourriture que de moteurs.
Aïe, aïe, aïe. Même pas de la nourriture en voiture?
Pas de nourriture en voiture.
C'est dommage, ça va être l'objet du sondage qu'on va lancer tout à l'heure.
C'est vrai?
Ouais, c'est ça.
Manger les fraises tagada en voiture?
Non, mais il y a un rapport. En tout cas,
d'accord.
On vous laisse le suspense. Antoine, de la voiture ce week-end?
Oui, surtout samedi.
D'accord, t'es loin?
À
peu près combien de kilomètres environ?
Je suis monté dans le Loir-et-Cher.
Oui, alors de l'Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher, c'est pas forcément extrêmement loin. C'est-à-dire que des fois, à 15 km,
ouais,
tu es dans le Loir-et-Cher.
Je repars sur Chinon.
Fallait refaire l'aller-retour, d'accord. Donc, toi, en Laguna 1, hein, toujours, au taquet. Et moi, est-ce que de la voiture ce week-end? Ben, je n'en sais plus rien, finalement. Mais je crois pas beaucoup. Si j'ai fait une soixantaine de kilomètres, mais pas ouf non plus. Petit trajet. Voilà. Par contre, aujourd'hui, j'ai pris ma nouvelle voiture avec un peu d'échappement percé.
Et ça fait du bordel, hein.
Ça fait beaucoup de bruit. Va falloir que je change ça.
Tous mes voisins se sont plaints quand il est passé devant chez moi.
Je suis désolé au voisin de Teddy s'il nous écoute. Je vais faire changer le pot d'échappement, oui, parce qu'il paraît qu'on nous a entendu jusqu'à Taïwan.
Oui, c'est vrai.
on rigole, mais c'est vrai que bon, à minuit, faire du bruit dans le quartier, c'est pas forcément top, quoi.
Starter, le sondage.
Bon, chaque semaine sur les réseaux sociaux, la page Facebook sur Indestar, hein, tout simplement, et puis Indestar Radio sur Instagram, on vous pose une question, à vous de nous donner votre avis. Cette semaine, c'était acheter ses points, entre guillemets, en stage de récupération de points, et, par rapport au permis, hein, dont on parlait l'autre fois. Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique ou c'est juste un business? Eh bien, vous êtes 71%, c'est-à-dire quasiment les trois quarts à dire que c'est plus une question de fric que de la prévention.
Business is business.
Business is business. Alors, même s'il y a effectivement ce côté préventif là-dedans, mais c'est vrai que ça rapporte de l'argent à l'État, on va pas se le cacher.
Personnellement, je suis de cet avis-là aussi, business is business.
Ouais.
Mais, alors, ok, ça fait de l'argent à l'État, mais ok, moi, ça me fait 4 points de vue.
Ah bah. C'est du gagnant-gagnant,
c'est du
win-win.
C'est du win-win.
C'est ça.
Mais c'est le business quand même.
Ouais, non, on est d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine?
Moi, je suis à peu près du business.
Tu suis, toi.
Ouais.
Il a misé en bourse et toi, tu suis, t'achètes derrière.
C'est ça.
Très bien. Nouveau sondage donc révélé tout à l'heure et puis vous aurez toute la semaine pour voter. Alors non, même pas toute la semaine. Il va falloir le faire assez rapidement sur la story Instagram ou la story Facebook. Vous avez 24 heures, je crois. Voilà. Mais on fait le récap la semaine prochaine dans Starter.
Starter, les brèves.
On fait le tour de l'actualité automoto chaque semaine et on y trouve des petites actualités. C'est le principe des brèves de Starter. Qui veut commencer? Allez, une moto, un deux roues pour commencer, ouais. Antoine.
Donc moi, je vous parle de BMW. En 2022, ils vont donner des motos neuves à la gendarmerie.
Ils vont les donner ou vraiment il y a un contrat quand même?
Non, ils vont
donner,
d'État.
Ils vont donner plus de 60 000 motos dans l'Europe.
D'accord, oui, mais ils vont les vendre, on est d'accord. Parce que les donner, c'est un petit peu un beau cadeau quand même.
Il leur faut un petit ratio, tu vois.
Ouais.
Et donc, ils vont vendre ça à la gendarmerie, la douane et la police.
C'est quoi comme type de moto? Ça fait quoi? C'est.
Et les 750
centimètres cubes?
Ouais.
Ah ouais, donc tu peux te faire rattraper,
et
quoi. 2000... Quand t'es en 4L, tu peux te faire rattraper.
Il y a des 1250 pour les plus grosses.
D'accord. Ah ouais, 2 litres 2, enfin ouais.
1250
centimètres cubes.
Ah, 1250, pardon, ouais. 1 litre 2, ouais. Mais,
ça va consommer, pas.
Ouais, bah non. Oh, ça va.
C'est la gendarmerie.
Ils peuvent y aller.
C'est avec nos impôts, donc ça va.
Oui,
hein,
oui, voilà.
Teddy,
moi,
4 roues.
Oui, 4 roues, on multiplie le nombre de roues par Lotus en 2022, pareil.
Marque de sport britannique, Lotus.
Oui,
hein.
Marque de classe, de privilège.
Ouais, sport surtout, mais oui.
Oui, moi je trouve très classe une Lotus. Et ben là, tu vois, ils ont descendu d'un cran. Oh, c'est méchant. C'est méchant pour ceux qui aiment bien les SUV.
Vont nous.
Si, un SUV. pire SUV électrique.
Oh non, mais non.
La totale.
Oh non.
SUV électrique pour l'instant qui s'appelle le type 132, hein, c'est son nom provisoire. Ils vont en lancer, hein, ils se lancent dans le marché. Allez, ils se sont dit, on va faire une petite familiale.
Mais le pire, c'est que ça marche. Vous êtes nombreux à acheter ça, un SUV électrique maintenant. Mais
c'est vrai que si tu veux un SUV électrique, c'est de la merde. T'en veux un ? Bah, tu prends le haut de gamme, tu vois. Donc peut-être que Lotus.
Lotus pour moi ça rime avec sport, tu vois. Moi, pour moi c'est la Lotus Elise, la Lotus
Exige. Moi ça rime avec classe internationale.
Attends, c'est pas des voitures de luxe, hein, les Lotus, c'est des voitures de sport, on est d'accord.
Moi je trouve ça super classe, Lotus.
Mais on est quand même sur la voiture de sport non plus.
Ouais, mais tu peux avoir une voiture de sport classe.
Oui, mais on est sur des, voilà, des petites berlinettes qui sont
c'est
normalement
Twingo,
légères. Sauf que là, ça n'a rien de léger vu que c'est un SUV électrique. Normalement, c'est hyper bas une Lotus. Là, t'es sur une voiture hyper haute. Ça
après,
n'a rien de Lotus.
Par rapport aux autres SUV de ce qu'ils disent, c'est un peu plus court qu'un SUV classique standard.
Là, je trouve que ça a plus rapport avec le papier toilette Lotus, tu vois, qu'avec la marque.
C'est pas loin, c'est. Oui.
Oh non, mais c'est méchant, mais bon. Non, mais achetez pas un SUV Lotus, s'il vous plaît. Moi, j'ai un danger. À votre avis, quel est le plus grand danger sur la route, Antoine?
Pardon. Le téléphone au volant?
Alors, non. Le plus grand danger, je veux dire, qu'est-ce qui peut se passer sur la route?
Ah, les animaux?
Alors, c'est pas ça, Teddy?
Moi, j'aurais dit les autres humains dans les autres bagnoles.
Ouais, alors tu t'approches, effectivement.
Bah, les autres humains,
la bonne réponse, c'est un jeune piéton mâle de moins de 30 ans. La réponse exacte.
Ah, vraiment ?
Oui, il est plus dangereux. En fait, c'est le bilan d'une étude très sérieuse qui a été menée par la MMA qui dit que 35% d'entre vous, alors je m'inclus pas parce que je suis rarement piéton, hein, mais 35% sont dangereux.
Et t'as pas moins de 30 ans ?
Et en plus, j'ai pas moins de 30 ans, donc tout va bien. Non, mais souvent, on traverse au feu rouge quand on est piéton, on passe en dehors des passages piétons, les yeux rivés sur notre portable, etc. Donc voilà.
C'est pas faux.
L'enquête a été menée dans les 5 plus grandes villes de France parce qu'évidemment, c'est plus flagrant en ville, hein, c'est là où il y a des piétons et où les chocs sont largement majoritaires. Il y a 67% des piétons tués en ville et 96% blessés. Donc grande majorité. Ils ont donc observé 2500 traversées de rue. Et il y a eu au moins un coup de klaxon pour 6% des gens qui ont traversé et même 13% à Paris, comme c'est étrange.
Oui. Mais après, oui, c'est biaisé le truc parce qu'ils prennent que 5 grandes villes.
Oui.
Mais du coup, ça équivaut pas pour toute la France. Parce que ça peut pas être représentatif vu qu'on n'est pas tous dans les grandes villes.
Ah ben non, mais justement, forcément, vu que les chocs ont lieu dans les villes, ils ont fait ça dans les villes. En tout cas, bon, c'est dangereux pour vous, évidemment, vous qui traversez. Et puis, déjà, ça salit notre capot, hein, s'il y a des chocs.
Petite règle de sécurité, traverser sur un passage piéton
oui,
et au feu vert.
Mais le problème, c'est que, en fait, tu risques pas grand chose quand tu traverses en dehors des clous, c'est-à-dire que c'est 11 euros. Et souvent les gendarmes, même s'ils voient l'infraction, ils font pas de contravention.
Bah
ouais, parce qu'ils mettraient plus longtemps à faire la contravention que tu vois. Il vaut mieux choper quelqu'un à 135 euros.
Aussi, sachant que nous, quand on traverse au passage piéton, les automobilistes ils te laissent pas passer.
Alors si, souvent si.
Non, bah rarement.
Bah, alors en France, c'est vrai que moyen. Mais cela dit, quand tu traverses en dehors du passage piéton, ils te laissent pas plus passer. Hein.
C'est pas quand tu traverses qu'ils te laissent pas passer, parce que quand tu traverses, ils te laissent passer, à moins qu'ils te montent sur le capot.
Oui.
C'est plus quand tu veux t'engager qu'ils te laissent pas passer.
Il faut montrer que vraiment tu veux t'engager.
Ouais. Ah, moi, je
en fait, il faut t'engager pour qu'ils te laissent passer.
C'est
mais
vrai.
T'as un risque.
Maintenant, j'entends plus, moi je commence à avancer.
Ouais, t'as raison.
Ça marche.
Alors des fois, ça marche. Des fois, ça marche.
Alors je leur gueule 6 points en moins.
Des fois, ça marche, mais c'est. C'est écrasant quoi.
Ouais, bah c'est écrasant, exactement. Mais surtout qu'en plus, quand t'es piéton maintenant, t'as. Alors avant, on entendait les voitures quand t'étais en ville. Et maintenant, t'as les voitures électriques, t'as les trams, t'as les vélos, t'as les trottinettes électriques,
les
c'est vraiment la jungle.
Les mettent des petits bruits, on avait
déjà t'as un espèce de bruit de soucoupe volante,
ouais,
mais. Mais tu l'entends moins qu'une voiture thermique quand même quoi. Ouais. Et puis plus toutes les autres choses quoi. Les vélos, il y en a partout, des trottinettes électriques, il y en a partout.
Ah,
tu peux te faire écraser 10
après,
fois.
Après, sur écraser par une trottinette électrique, faut y aller quoi.
Ouais, mais alors toi t'as mal et le mec de la trottinette électrique a mal. Alors que sinon dans la voiture, seul le capot a souffert.
Ouais.
Aujourd'hui dans Starter, l'aventure de voitures qui font rêver mais qui n'ont pourtant jamais été commercialisées, à savoir les
Concept car.
Voilà.
Ah ouais, je l'avais presque.
C'est vrai, t'étais pas loin.
J'étais à côté des clous aussi.
On commence par une définition du concept car, ou show car, ou concept de voiture en français, qui est un véhicule expérimental destiné à montrer au public des conceptions, des technologies ou des formes nouvelles.
Voilà, si ça, je comprends bien, ils font un. Avant de sortir la bagnole, ils en font une autre avant. Mais qui sert qu'à ça, tu vois. C'est un peu le prototype, tu vois.
Oui. En fait, en gros, c'est regarder
c'est
ce qu'on sait faire et surtout qu'on fera dans les années à venir, une fois qu'on aura vraiment et qu'on saura vraiment ce qui vous intéresse et comment on peut le faire en série.
C'est un brouillon, mais joli.
Oui, ça doit être joli.
Oui.
Ça doit être joli parce que.
Donc ça vend du rêve.
En fait, voilà, exactement. C'est, des fois, on appelle même ça un dream car. Une voiture qui vend du rêve. Et c'est pour ça que, d'ailleurs qu'un concept car s'est fabriqué à un ou très peu d'exemplaires, qu'on les voit uniquement dans les salons et pas sur nos routes, c'est parce que vraiment il faut les montrer.
Voilà, oui, c'est ça,
c'est l'objectif.
C'est pas sur les routes que tu dois les voir, c'est dans les salons, lors des grosses ventes. Quoi.
Ouais, c'est de la pub.
Événements.
C'est
oui,
de la pub, hein, tout simplement.
D'accord.
Alors je reviens sur le. Une fois qu'on saura vraiment ce qui vous intéresse, parce que le but de l'exercice, donc, c'est de jauger la réaction du public et les médias aussi, hein, par rapport à notre concept car. Donc on y met le paquet, on fait rêver, ça doit marquer les esprits. C'est un outil de com du genre, bah regardez comme on maîtrise le sujet. C'est votre voiture dans 5 ans, vous allez kiffer quoi.
Ça veut dire que, je sais pas, si on prend par exemple Dacia Duster, c'est vraiment passé en concept car et ça a été accepté ça?
Oui.
Oh là là.
Bah oui, mais alors.
Oui, d'accord, ok.
Mais si on reprend le concept du Dacia Duster, je crois que la version concept car était un petit SUV 3 portes coupées qui faisait un peu rêver. Après,
c'est
ce qu'ils ont fait au final
joli,
était plus adapté à la famille. Quoi.
Ouais.
Pour en revenir au concept car, heureusement, vous n'allez pas les utiliser en tant que tels, parce que
c'est
justement,
dommage.
ils sont pas finalisés.
Ah oui. Ils sont pas homologués même.
Mais ils sont pas homologués, mais il y en a même certains qui n'ont pas de moteur.
c'est des coques vides pour faire.
Ouais. Bah c'est juste un exercice de style. Hein. Bon, il y en a certains, ils en ont mis un, mais en fait, si le moteur n'a pas d'intérêt, en principe, ils en mettent pas. C'est-à-dire que si, il y a 50 ans, ils mettaient des moteurs avec des turbines, donc là, ok. Voiture électrique qui a 20 ans, aujourd'hui, ça serait une voiture, je sais pas, qui roule au quinoa. Petite dédicace aux vegan qui nous écoutent. Non, mais tu vois l'idée. En fait, ça n'a pas besoin, un concept car, d'être ni fonctionnel ni pratique. Ça doit juste en jeter. C'est comme un bijou voilà, que tu mets, mais enfin que tu montres, mais pas forcément.
Et d'ailleurs, ils finissent comme les bijoux derrière une vitrine au musée, hein, clairement.
C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on a vu des concepts par exemple sans portière, parce que bah, c'est plus beau sans les découpes de portière, ou alors une bulle de verre. T'imagines dans la réalité, si t'avais 1m50 à franchir pour rentrer dans ta voiture, bah ton collant il est filé quoi. Donc, ça serait pas ouf au quotidien. On est d'accord.
Je mets pas beaucoup de collant.
Non, pas toi, mais c'était pour l'image. cela dit, même s'il y a un intérieur en peau d'éléphant et des roues en triangle, c'est pas un jeu non plus pour les constructeurs. C'est-à-dire que il y a presque toujours des éléments dans un concept car qui seront repris par la suite dans des modèles de la marque. À commencer certaines fois par le nom.
En fait, ils lancent des idées dans un seul. Enfin... En règle générale, ils lancent des idées dans un concept car qui peuvent recycler dans d'autres bagnoles plus tard.
C'est
généralement
ça.
Dans une, mais des fois dans plus d'autres.
Même. Ouais, ça peut être dans plusieurs. Et par exemple, alors je reviens sur le nom. Je vais vous donner l'exemple de Renault dans les années 90-2000. Par exemple, en 88, il y avait une grande berline familiale de type salon qui s'appelait la Mégane. Et nous,
ah oui.
On l'a retrouvé en 95 dans une berline compacte avec le même nom. Il y a un Roadster cabriolet qui est sorti sur le salon 90 qui s'appelait la Laguna. Qu'on a retrouvé dans une berline familiale au milieu des années 90.
Ça s'appelle la Laguna.
Hop, en 94, non, ça c'est pour la Laguna. En 94, il y a eu un petit concept utilitaire hybride qui est sorti, qui s'appelait le Modus. Voilà, qui est sorti en mini-space en 2004 en version de série. Mais qui avait rien à voir en fait entre le concept qui était une petite fourgonnette et puis ce qui est sorti, c'était pas le même concept.
Ouais.
Mais ils se sont dit, oh tiens, Modus! C'est bien, ça sonne bien. Oh Laguna, ça sonne bien. Donc
c'est
on
joli.
Va réutiliser le nom quoi. Il y a ceux qui sont plus orientés concept ou idée. Et là l'idée c'est de montrer sa vision de l'automobile de demain. Donc on voit des voitures autonomes par exemple qui s'emboîtent les unes dans les autres. Ou au besoin. Non mais oui. Il y a eu des concepts comme ça. Non, mais pour imaginer en fait la ville du futur, tu vois. La ville du futur, moi en tant que constructeur automobile, je la vois avec.
Je vois des voitures aimantées qui s'aimantent toutes seules.
Exactement, et puis qui se séparent, tu vois, ça fait mi-transfert en commun, mi-transport individuel. T'en as d'autres qui se sont dit, bah, je prends l'exemple de Peugeot, nous c'est le plaisir de conduire, donc ok pour un écran de cinéma à l'intérieur de ta voiture. Par contre, quand l'être humain veut reprendre le volant, là on va avoir quelque chose, un petit coupé bas sportif avec un vrai plaisir de conduire et on garde notre ADN. Donc voilà, ça c'est différents types. Il y a ceux qui sont plus orientés design aussi et qui annoncent, t'en parlais tout à l'heure Teddy, les orientations de la marque. Si je prends par exemple le concept Désir de Renault qui est sorti en 2010, eh ben, il annonçait clairement pas le coupé sport qu'il était dans ce concept, mais tout le design de la partie avant qu'on a retrouvé sur toutes les Renault ces 10 dernières années.
D'accord. Et il était qu'en noir en plus.
Il était qu'en noir, c'est-à-dire ?
Parce que noir Désir.
Oh Oh là là. C'est bien joué, c'est bien joué. Mais voilà, bon, en tout cas, il y a des concepts comme ça qui, hors antenne, on parlait du concept e-légende chez Peugeot, ouais, qui est sorti, enfin, qui a été présenté en 2018. Et là, la face avant a fait rêver, enfin, pas que la face avant, oui, parce vrai que c'était une réinterprétation de la Peugeot 504.
Ça fait une mais grosse le concept, carré,
ouais, a fait rêver tout le monde, à tel point qu'il y a une pétition pour qu'il sorte réellement, ce coupé.
Il y a souvent des pétitions pour pas grand chose. Pas. Mais oui.
C'est vrai, mais bon, ça c'était une cause comme une autre. Et il y a toujours des designers, quand on parle du futur style Peugeot sur les prototypes, etc., vous regardez les magazines auto, bah, vous avez souvent des illustrations, alors qui des fois n'ont rien à voir avec la réalité parce que les illustrateurs se basent sur le peu d'infos des fois qu'ils ont, mais souvent on retrouve cette patte graphique qui a été utilisée sur le concept e-légende, quoi.
C'est un peu comme c'est des artistes.
De quoi les
infographes ouais. Entre guillemets, ils ont une patte artistique qui peut se retrouver dans plusieurs tableaux, même si c'est pas les mêmes tableaux,
c'est
on
vrai
peut les retrouver.
C'est ça.
C'est des artistes.
Et puis bon, il y a d'autres modèles qui sont, on va dire, les plus aboutis et qui sont là pour annoncer un modèle et qu'on gardait le nom et la forme. Et puis après, la seule transformation qui va se faire entre le concept car et la voiture de série,
c'est le budget.
Ouais, c'est ça. C'est pas... Alors, il peut y avoir deux choses. Il y a le budget et il y a l'homologation. Parce que clairement, il y a des éléments de carrosserie, par exemple, que tu ne peux pas faire. Il y a des détails pratiques aussi, ou comme des équipements que tu peux pas mettre. Par exemple, pendant longtemps, ils mettaient dans des concepts les caméras à la place des rétroviseurs. Et ça fait que très peu de temps qu'on peut proposer ça en série. Maintenant, c'est possible parce que la technologie le permet et ça a été homologué par l'Union Européenne. Mais avant, c'était pas possible. Donc, on avait le concept car qui était terminé à 95% sur le salon, et puis après la version de série, bah, on se retrouvait avec des rétroviseurs classiques, quoi.
C'est con si t'as plus de batterie, si t'as plus de, enfin, si ça marche plus.
Pourquoi ça ne fonctionnerait plus?
Bah, ta caméra.
Bah, ça serait comme
t'as plus de rétro après.
Un rétro cassé. Mais tu as par exemple la Honda E qui est sortie il y a un an maintenant, elle a un écran de retour, une caméra avec un écran de retour. Hein. Alors évidemment, c'est comme c'est de la com. Tout ça, on les voit, ces concepts, dans
c'est
les journaux bonheur, avant.
Comme tu dis, c'est de la peau d'éléphant.
Bien alors sûr, voilà, ouais, non, mon
image. C'est exagéré au maximum.
C'est exagéré, c'est ça. Et puis, bien sûr, ça doit briller. Alors, ça brille sur les réseaux sociaux, dans les journaux, sur les podiums pleins de lumière que l'on met
plus
en évidence sur les salons, sur YouTube quand les YouTubeurs peuvent les approcher. Et puis, aux côtés de leur designer en interview, hein, aussi, on a des trucs. Tu vois. Alors là, on a voulu faire une voiture. Mi figue, mi raisin, hein, voilà, on l'a baptisé la figzine, hein, tu vois. La figzine, c'est mieux. Bon, bref, ce genre de discours, ça, on le tient depuis des années.
C'est de l'espro.
Les premiers concept cars, on va dire qu'ils datent des années 30. Alors, c'est souvent la Buick E-Job de 1938 qui est considérée par certains comme le premier concept car. Alors, c'est discutable en vrai. Hein,
oui,
mais,
parce que j'imagine que même avant l'invention de la voiture tout court, telle qu'on la connaît, la toute première voiture qu'on a eue, il a dû faire un prototype à la con.
Ouais, mais c'était plus un prototype qu'un concept car, tu vois.
Oui,
c'était pas pour faire rêver parce que personne savait ce que c'était, tu vois.
Okay, voilà. Mais ça faisait rêver juste la bagnole en elle-même.
On a plus présenté la voiture dans son état final et ce sont les clients qui ont testé la voiture. Hein. C'était autre chose. Mais tu sais que la Buick là, de 38, elle avait déjà les phares escamotables, la capote électrique, la direction assistée en 1938. Donc ça annonçait vraiment le futur de Buick dans les 10-20 ans qui allaient arriver.
Dans le futur tout court.
Et puis après, ouais, c'est clair. Et puis après, c'était la déferlante. Hein. C'était. Ouais, voilà, les concept cars, c'est un peu les stars des salons. Bah, des fois, un peu plus que ça. Hein. Teddy, imaginons que je suis constructeur.
Hein. Tu es constructeur.
Ouais, ça me fait plaisir. Et je vais y faire dégourdir un petit peu les jambes de la voiture que j'ai exposée. Est-ce que c'est possible?
Ah, alors ah. Là, tu t'attaques à une grosse question.
Ouais.
Non, pas épineuse. Si grosse que ça. Assez facile. Oui, alors, les recherches ont été épineuses, quand même. Mais en France, si tu es construit, on va dire, t'es Renault, t'es en France, hein, tu veux lancer ton nouveau, je sais pas, Dacia Duster.
Ah, Duster.
Pas Duster, Duster. voilà, tu fais un concept car. Si tu veux le faire rouler, si tu veux faire des tests, on va dire, en grandeur nature. Il y a peu de chances que tu le fasses déjà parce que c'est plus la mode de faire ça. Tu fais ton concept car et après tu fais un prototype qui ouais. est déjà en dessous du concept car en soi.
Comment,
en dessous,
tu,
ça veut dire.
En dessous, dans quel sens ouais.
En dessous, bah, ils ont déjà baissé de gamme, ils ont déjà remplacé des trucs. Elle ressemble plus déjà au produit fini
ouais.
qu'au concept car.
Oui, tu veux dire qu'en fait, il y a les financiers qui sont passés par là, qui ont fait « Hey, Coco, monsieur design, là, t'es bien gentil, mais tu vois ta trappe à essence que t'as mis en alu. Bon, ouais. On va la faire en plastique, ça va coûter moins cher. »
Non, mais c'est totalement ça. Mmh. Puis même, comme tu l'as dit, les concept cars, des fois, ils ont pas de moteur. Du coup, c'est compliqué
c'est
de faire
en mettre un, ouais, on est d'accord.
Voilà. Donc, il y a la partie prototype qui est assez importante entre le concept car et le produit final.
Et le prototype, oui, il faut que ça roule le pour que ça soit lui, pour les clients opérationnels.
Exactement. Mmh. Donc lui, tu peux avoir des homologations spéciales. Spécial constructeur, on va dire.
Ouais.
Voilà, c'est bien comme nom, ça. Mmh. Pour pouvoir rouler, pour pouvoir faire des tests, qui font généralement, pas forcément en France, souvent c'est à l'étranger. Des fois en France, hein, on va pas se mentir. Mais généralement, ils font ça aussi en garage. Et beaucoup en ce moment.
En
beaucoup,
garage, tu veux dire plus circuit fermé
Circuit fermé, sur tapis roulant.
Sur tapis roulant. Direct, tu t'entraînes au sport.
Quoi. C'est trop ça. Et beaucoup, ça se fait de plus en plus ces 10 dernières années sur informatique.
Ouais.
Ils font beaucoup de tests, notamment les crash tests et tout ça. Ils cassent plus de bagnole, c'est fini. Alors, ils vont pas envoyer un duster.
C'est le OneCap, après, c'est un organisme indépendant qui va faire un crash test en réel. Mais avant, pré-test en tous les cas chez les constructeurs, et je voulais revenir sur la CAO et tous les tests qui sont faits avant la sortie. C'est que toi qui as eu une Laguna 2,
oui,
voilà, ça a été l'une des premières voitures qui a été à majoritairement testée sur ordinateur avant d'être commercialisée. Ce qui n'était pas une franche réussite parce qu'il y avait plein de soucis à la sortie et les clients ont payé les pots cassés. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, on avait plus tendance aux voitures à leur faire subir, mais des fois, des conditions extrêmes.
De base, oui.
Ouais, des fois, on leur faisait faire le tour du monde. Hein. Les voitures, ça prenait quelques semaines, quelques mois, des fois. Mais
il y avait des trucs sympas à l'époque, clairement, qu'ils faisaient et qui étaient plus réels de la vie. Ouais. De notre vie à nous, de conducteurs. Mm. Là, maintenant, effectivement, quand tu fais informatiquement. Ah, c'est moins réel. Tu peux avoir des super précisions quand même, hein, mais
t'as des précisions sur certaines choses, mais c'est vrai que t'as certains tests qui reflètent pas en fait la façon dont tu vas vraiment utiliser ta voiture.
C'est ça.
Et ça peut être problématique, même si les technologies ont largement évolué depuis la sortie de la Laguna 2. Hein. Aujourd'hui, oui. on sait faire.
On en parlait en off. Les voitures qui sont pour rouler autonome,
oui.
De type les Tesla. Il y en a des Tesla qui roulent autonome. Hein, si je me rappelle.
Ouais, d'un certain niveau, parce qu'il y a 5 niveaux en fait d'autonomie sur les voitures et je crois que la limite aujourd'hui c'est niveau 3 mais qui est légalement autorisé. Après c'est voué à augmenter et Tesla c'est faire du niveau 4 au moins, sauf que c'est pas autorisé quoi.
Ouais. Bah ceux-là par exemple il y a peu de chances qu'ils en font des grandeurs nature en théorie. On n'en verra pas en rouler en France. Bah déjà, comme tu l'as dit, les niveaux 4, c'est fini.
Ouais.
Enfin, voilà.
Après, aux États-Unis, ils sont plus souples par rapport à ça. C'est-à-dire
plus
que...
souples ou...
ouais. Ouais, bah, ils sont plus permissifs, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des voitures Google, tu sais, les espèces de pots de yaourt carrés qu'ils avaient sortis il y a une dizaine d'années. Ils en ont fait circuler. Il y avait une autorisation en Californie pour faire circuler des Google Cars un petit peu partout. Donc, t'avais des voitures qui se promenaient toutes seules, sans chauffeur et sans personne à l'intérieur.
Ça, t'en verras pas par chez nous.
Hein. Et non, mais de toute façon, ils ont arrêter les Google Cars, donc on verra pas de Google Cars non plus.
Non, par chez nous, les concept cars de ce genre-là, on est frileux hein, quand même.
Ouais, bah l'État, enfin c'est même pas l'État français, c'est l'Union Européenne quoi, qui a du mal à autoriser ce genre de choses. Et pour en revenir au test, donc là on est plus sur du prototype, c'est que ils sont testés dans des pays hors de la France, alors souvent des pays moins peuplés.
Oui, bah au niveau du journalisme que...
Oui, ah
En fait, comment dire,
il y a deux raisons.
Ils veulent pas, oui, ils veulent pas vendre leur, enfin, ils veulent pas que leur produit ait des fuites avant que tous les tests finaux soient, enfin, avant la sortie.
C'est pour ça qu'ils sont camouflés aussi.
C'est un peu comme un jeu vidéo ou comme pas mal de choses. Avant la sortie, c'est caché. Faut pas qu'on se montre, voilà. Donc là, la voiture, il la camoufle, il modifie les formes, il change les couleurs, ils font plein de choses pour qu'elle passe inaperçue. Que peu de gens la remarquent, et surtout les journalistes hein, pour le coup, parce que toi tu gagnes, t'en vois plein. Voilà.
Après, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Voilà. Il y a des journalistes spécialisés d'ailleurs dans la recherche de concept car, hein, mais c'est chaud.
Oui, bah c'est un peu un paparazzi du concept car. Mais il y a ça, et puis le fait de tester ces voitures dans des conditions extrêmes aussi, que ce soit forte chaleur ou fort froid, ça la met dans de rudes conditions. Et je pense notamment aux voitures électriques, là, dans le froid ou à galère, bah, ça permet de tester l'autonomie sur aussi
des conditions.
Dans le
nord, ils vont les tester là-bas, il y a peu de gens, ces conditions extrêmes, du coup, c'est rentable. Et après, ils reproduisent ça dans leurs usines qui sont pas en Europe. Enfin, ça dépend lesquelles, hein, mais bon, on va pas se mentir. Et voilà, t'as ton produit fini qui sort et t'as pas eu trop de fuites, voilà, t'es tranquille. Tu lui donnes même un nom de code en plus.
Le X86, le P32.
Tu donnes pas le nom final, jamais.
Non, bien sûr.
Hors de question.
Alors, quelques concepts qui ont marqué l'histoire, évidemment, c'est non exhaustif. Je vais pas revenir sur ma Bucky Job, hein, j'en ai d'autres. Par exemple, la BMW Turbo, qui est un concept de coupé sportif qui a été présenté en 73 et qui avait de quoi rivaliser avec les Ferrari hein, à l'époque, avec un look et des porte-papillons, tu sais, qui s'ouvrent comme ça, clac, 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 vers l'eau.
Comme les.
Comme un papillon. Comme les, non, les DeLorean, c'est pas des papillons, c'est
non,
des.
C'est papillons.
Non, c'est des portes. Comment ça s'appelle ? Comme les Lamborghini, ça a un nom.
Oui. De, l'arrière se lève plus haut que l'avant.
Latéral ou comme ça ?
Non, pas latéral. Elles sont latérales forcément, mais ouais, non, non, c'est un autre nom.
Libellule.
Libellule bail. Ouais. Là, cette BMW, elle était ultra en avance puisqu'elle était équipée déjà d'un radar anti-collision. Donc ça, c'est un équipement qui existe depuis à peu près 10 ans sur les voitures de série, sur certaines voitures, tu sais, qui permettent d'éviter le choc piéton, ce genre de choses.
Je sais même pas si j'en avais.
Et ça a aussi inspiré la BMW M1 qui est sortie en 2008. C'est-à-dire 35 ans après le concept.
Mais le look, ouf. À mon avis, tu vois, ils se sont inspirés.
Ouais, ils sont inspirés du look. Ouais, hein. Ah, c'est ça. On parlait de Ferrari, il y en a une que vous pouvez retrouver aussi dans les livres de design et de déco, c'est la 512S Modulo de 70, qui a été dessinée par Pininfarina et qui ressemble à une voiture clairement de film de science-fiction. Hein. On est très largement en avance sur notre temps. Ce qui est chouette, c'est que le concept a été racheté par un réalisateur américain qui a demandé à ses équipes de le faire homologuer parce qu'aux États-Unis c'est plus facile qu'en France et il roule donc ce concept aux États-Unis.
Oh, un concept qui roule.
Bah ouais. Bon, par contre, t'as pas intérêt à te faire rentrer dedans parce que si tu veux changer la pièce, bah, t'es le seul unique exemplaire qui existe au monde, donc compliqué. Ouais. Et puis une troisième là pour finir avec une ref dont je vous parle souvent dans Starter, d'un film que j'aime bien qui est iRobot, la voiture de Will Smith dans le film, une Audi, celle qui se conduit toute seule avec des porte-papillons et des sphères à la place des roues. Ouais, concept car Audi qui a été réalisé en 2003 pour le film et qui est une première dans ce sens-là et un très bon placement de produit, faut l'avouer.
Ouais.
Cela dit, chez Audi, quand ils ont su qu'ils étaient sélectionnés, ils ont charbonné hein, parce qu'ils ont mis 10 semaines seulement pour la fabriquer et qu'elle soit opérationnelle pour le film. Donc même si c'est pas une vraie voiture de course comme on la voit dans
oui,
le film.
Oui, elle fait pas du 300.
Non, en fait, un petit moteur 4 cylindres de 70 chevaux dedans, oui. Mais ça suffit
50,
pour les 2 ans du film. Et ils l'ont réalisé en seulement 10 secondes, donc bravo à vous. Toi, t'es dit ton top 3.
T'as vraiment 10 secondes ?
10 semaines, pardon. 10 secondes, ça fait un peu court.
Ouais, 10 secondes, ouais, c'est pas mal. Alors oui, moi, je vous ai fait un petit top 3 de voitures concept car que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement.
Ouais.
J'en ai recherché pas mal, j'en ai trouvé pas mal. C'est sympa, le principe. Alors, on va commencer très simple. Une voiture de 98, si je la retrouve. Voilà. La Peugeot Auxia. Vous pouvez taper Peugeot Auxia. Ah, elle est
c'est un coupé sport.
C'est un... Oui. Oui, c'est un coupé sport. Alors, le devant, il a l'air vachement classique, clairement. En vrai, je suis sûr qu'on a déjà retrouvé le devant sur
ouais,
des bagnoles.
C'est très typique des années 90 de chez Peugeot, ouais.
Et par contre, l'arrière, t'as un espèce d'aileron, mais vers l'arrière plutôt que sur le devant. Enfin, comment dire
le dessus,
il va pas vers le ciel, oui, ouais. Sur le dessus. Il va vers l'arrière, t'as des baies vitrées.
C'est parce que la voiture va tellement
derrière.
Vite que ça a déformé l'aileron et.
C'est ça, il s'est plié en arrière.
Il arrive pas à suivre.
Voilà.
Je pense que c'était assez innovant en 80. C'était en 88, j'ai dit 98 tout à l'heure, je crois.
Oui.
C'est 88.
À 88, ouais.
Le latéral de vos bagnoles, généralement, ils sont assez droits. Alors maintenant, plus trop. Maintenant, au niveau des roues. Ça ressort un peu.
Ça peut s'élargir, ouais. Enfin, c'est pas que maintenant, mais.
Ils s'élargissent du coup.
D'accord.
Ils s'élargissent de pas mal.
Ouais, c'est pareil, ça faisait un peu, allez, on va dire, à la mode de Ferrari Testarossa des années 80, quoi, où t'avais l'arrière qui était vachement plus large que l'avant.
C'est vrai. Il y avait aussi qu'un seul essuie-glace pour le pare-brise, enfin le pare-brise. La lune, enfin.
Ouais,
la baie vitrée
dedans. Assez courant, un essuie-glace monobalay.
Ouais, mais il est énorme.
Ouais,
il est pas tout petit.
Parce que le pare-brise est énorme, j'imagine.
Oui, ouais, le machin, ça te fait un rideau, quoi. Et ton antenne, elle est toute minuscule sur le toit, alors que...
On s'en fout, c'est pas pour capter la radio, c'est pour faire beau, c'est un concept.
C'est vrai. Alors, dans les concepts, alors celui-là, je l'affectionne particulièrement, j'aimerais bien. C'est le BMW Vision Next.
Ah, j'ai regardé, c'est moche.
Pardon.
Tu sors. Affaire de goût en même temps.
Franchement...
Je suis assez mitigé.
T'es mitigé, t'es mythique, mi-raison, quoi.
J'aime bien le style,
ouais.
Mais c'est les roues. Au niveau des roues, j'aime pas.
Qu'est-ce qu'ils ont, les roues?
Les roues, tu les vois pas.
Ouais, tu vois pas les roues.
Tu vois pas les roues.
Tu vois pas les roues.
Elles sont carénées.
Oui, ouais. C'est carréné, ça veut dire qu'elles sont dans un truc.
Ouais.
Oui. Quand tu tournes, en fait, la voiture, elle a des petites écailles à certains endroits, et en fait, ça fait agrandir la carrosserie ou pas, ou ça la fait rétrécir selon l'inclinaison des roues. C'est vivant, la carrosserie.
Ok, mais ça veut dire que, imagine, tu fonces dedans, est-ce qu'elle se déforme aussi la carrosserie dans l'autre sens?
Il y a de grandes chances, mais par contre ça va pas se remettre après.
C'est peut-être pour ça que la voiture ça poisson n'existe pas.
Ouais, si ça reste bloqué, tu fais comment?
Bah non, mais c'est même pas en restant bloqué, mais c'est juste comprimé au milieu, c'est pas
top. C'est un concept car.
Oui.
Donc ça n'est pas fait. Par contre, celle-là pouvait aller jusqu'à 80 km/h. Waouh, c'est bien.
Waouh.
Waouh.
Bon, en même temps, c'est sur la route d'aujourd'hui.
Mais bon, c'est une concept car. Voilà, on lui en demandait pas plus. Joli calandre avant, deux grosses.
Bah, qui est très typique des BMW qu'on fait maintenant.
C'est
pour
vrai.
Le coup, toutes les BMW qui font maintenant.
Se ressemblent.
Ce que j'ai horreur, hein, parce que franchement, j'aimais bien les calandres BMW à l'époque. Mais là, je trouve que plus ça va, plus elles sont grandes. Il y a même des mèmes sur internet qui circulent avec la BMW en 2050. On ne voit que la calandre, tellement c'est énorme. Mais bon, je suis pas trop fan, mais en tout cas, c'est un style qu'on retrouve. C'est en quelle année c'est sorti ça?
Elle est super récente. Hein. Elle est,
ah oui, c'est pour
elle
ça.
A même pas deux ans, je crois.
D'accord, c'est pour ça qu'on retrouve cette calandre là.
Mais oui. Y a aussi les phares avant. C'est même plus des phares, c'est des tiges, mais verticales.
Ouais.
Deux tiges verticales pour faire la lumière. Évidemment, le clignotant ça sert à rien.
Oui, bah.
C'est un concept de car, c'est moche.
Parce que c'est vrai que sur les optiques, il y a pendant des années, même encore maintenant. Alors, on arrive à faire plus de choses avec tout ce qui est LED. Maintenant, c'est plus facile. Mais par un moment, c'était compliqué d'intégrer des phares originaux. Qui était homologable. Donc sur les concepts ils se lâchaient. Par contre c'est vrai que dans la réalité fallait remettre un peu les choses à leur place quoi.
Les portières, alors pas papillon, celles qu'on cherche depuis.
Ah là là, on va les trouver.
On va les trouver un jour ou l'autre hein, mais bon.
Je cherche ça.
Voilà, très jolie voiture en tout cas. Si vous voulez chercher la Vision Next, offrez-moi ça, je suis content. Si on peut. Après la dernière que j'ai trouvée, c'est la Lamborghini Canta. Franchement, je la veux bien aussi.
Bah, quand t'as une Lamborghini, t'es bon.
Oui.
Ou c'est que t'es riche.
Celle-là, je vais avoir du mal à vous la décrire. Parce que. Waouh. Elle est très, très, très coupée. Hein. Enfin, très, très, très basse. C'est une planche.
Limite, on dirait presque une Batmobile.
Est-ce que c'est utilisable au quotidien? Imaginons que tu l'as dans la réalité. Bof.
Ouais. Non. Ouais, c'est plat, quoi. En fait, tu peux en garer deux, quoi. C'est... deux. Comment dire, tu fais un garage d'un mètre cinquante de haut, bah voilà, c'est bon. ça suffit.
D'accord.
Bon. Mais bon, non, franchement, c'est très joli à voir. Il y a beaucoup de concepts. Si vous êtes fan de voitures, enfin de véhicules qui sortent de l'ordinaire, les concept cars, c'est entre guillemets fait pour vous parce que vous l'aurez jamais. Mais vous pouvez aller les voir et vous ferez plaisir. Mm. Clairement, c'est le truc à regarder si vous voulez voir de jolies voitures qui n'existent pas, entre guillemets, enfin, qui existent, mais. Non, enfin que tu pourras pas l'acheter.
Que tu peux.
Tu contenteras ta Laguna ou ta Twingo.
A dream car. Exactement.
Ouais.
Antoine,
oui.
Il y a eu des concepts aussi qui ont fait un flop.
Oui, un gros flop.
Ouais, qui ont été présentés puis pff, bof.
Ouais. Il y a eu aucune idée de bon, rien n'était bon, tout est acheté.
Alors, la première, c'est la Toyota Publica Sport.
Ok.
Elle est sortie en 62. Ils ont fait le concept.
Ouais, ils l'ont présenté en 62.
Et pourquoi
à quoi ressemblait la voiture?
Franchement, elle était pas dégueulasse. Mais là où ça a pas marché, c'est que pour rentrer dans la voiture, ça s'ouvrait comme un cockpit d'avion de chasse.
Ah, c'est sympa!
Donc c'est l'arrière qui reculait.
Ouais! Ah oui, vraiment comme les petits avions de chasse que t'as. Ouais. Et les gens n'en voulaient pas.
Non.
Tu voulais pas d'un avion de chasse?
Moi, j'aimerais bien qu'on ait un avion de chasse.
Elle a aspiré une voiture après qui a marché, c'est la Publica 800.
Ok, par contre, ils auraient dû changer de nom parce qu'une Publica.
C'est vrai que ça fait très république.
Ouais, ça fait voiture publique, ouais.
C'est dégueulasse.
Et après, là, je vais reprendre Octalic, pour toi c'était un top. Mmh. Bah là, j'ai trouvé un flop.
Laquelle?
La BMW Turbo.
Ah ouais, et pourquoi c'est un flop pour toi?
C'est un flop.
Bah pour moi, c'était parce que c'est trop futuriste en fait. C'était trop futuriste pour
moi. Ah bah trop en avance sur son temps.
En même temps, 73, il n'y avait pas beaucoup de...
Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont repris que très récemment, au final. Comme tu l'as dit, ils l'ont repris en 2008. Contre... Peut-être parce que...
C'est vrai qu'on peut dire que c'est un flop à l'époque et un top maintenant. Non, quoi.
Bah ouais.
C'est la première du pack M, en fait.
Ah, les fameuses M5
et
compagnie. Ah oui, bah oui. Donc ça a inauguré quand même quelque chose de bien.
Oui.
Après, on part sur la Citroën M35.
Ah oui. Alors, celle-ci qui n'est pas un concept car, mais qui est plus... Enfin, qui est un prototype... qui devait industrialiser par la suite. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette M35?
Bah pour moi, déjà, c'est on dirait une Visa.
Ouais,
c'est ça fait pas rêver. Avec une AMI 8.
Ok, alors je suis pas hyper fan de l'AMI 8. Et je suis encore moins fan de la Visa. Forcément, ça fait pas un truc. Ouais, c'est une sorte de coupé. Mais elle avait surtout un moteur rotatif.
Oui.
Mais quoi, il tourne,
pas,
le moteur
qui était pas fiable.
Alors, oui, le moteur. Non, mais je t'expliquerai un jour le principe du moteur rotatif. D'accord. Parce que on pourrait faire un chapitre complet dessus.
Ok.
Oui, donc elle était pas fiable.
Bah,
le moteur, au bout de 60 000 km, il était mort.
D'accord. C'est vrai que ça fait peu. 60 000 km pour une voiture qu'il faut changer le moteur, c'est compliqué. Ouais.
Et il y avait une alarme sur le compte tour. Mmh. Dès que tu passais 7000 tours minute, ça gueulait.
D'accord, mais en même temps, quand t'as 7000 tours minute, déjà, oui, il tente de changer le rapport.
C'est,
hein,
c'est une voiture qui montait très vite en.
Oui, en... Bah, moteur rotatif oblige. Oui. C'est pour ça.
Ah. Et ma petite dernière, c'est la Mercedes Maybach Vision 6 électrique.
La pêche?
La pêche Maybach. Non, c'est Maybach. C'est la marque de luxe, on va dire, enfin la fiche haut de gamme de Mercedes, qui est déjà une marque de luxe.
Et là où ça n'a pas marché, c'est qu'elle était trop longue.
Elle faisait genre
plus de 6 mètres.
6 mètres, ah ouais, 6 mètres, ça commence à faire un gros paquebot là.
Ils avaient aussi prévu, un moteur électrique de 500 km.
Mais d'autonomie.
Ouais, et à 300, t'étais à sec.
Ouais, alors pas, on dit pas à sec, mais wow. On est à court de jus, c'est à plat, ouais, c'est bien à plat.
Starter, le garage.
Ce soir dans le garage, l'avant-time.
Avant le temps ouais. Non, avant-time.
De chez Renault.
Attends, si, je crois savoir ce que c'est. C'est pas le machin qui ressemble à un gros cul. Pourquoi on fait ça?
Eh ben, on fait ça, Teddy. Parce que.
C'est carré,
on a parlé
c'est
des concept cars et l'avant-time est un concept car roulant. C'est déjà le seul premier et unique coupé space de l'histoire. Le fait qu'il ait fait un bide, parce qu'on va revenir là-dessus. Ça en a fait une voiture de collection. Alors mais même qu'il était encore commercialisé.
Est-ce que toutes les voitures de collection qui, enfin non.
Non.
Est-ce que
toutes n'ont les pas voitures... été des bides. Si c'est la question.
Non. Est-ce que toutes les voitures qu'on fait un bide sont de collection?
Ah non plus. Mais celle-ci si.
Parce que c'est le seul espace coupé.
Oui. Et puis parce que cette voiture elle a marqué les esprits.
D'accord.
On va revenir d'ailleurs sur la jeunesse parce que cette voiture elle vient de Matra. Alors Matra c'est un bureau d'ingénierie, enfin c'était un bureau d'ingénierie automobile mais pas que, indépendant, qui à la fin des années 70, on va remonter très loin, a eu une idée, c'est de créer un gros volume monocore. Donc ils ont fait un concept car ouais. Et ils l'ont proposé d'abord à Peugeot qui était en passe d'être en faillite à l'époque, donc ils ont dit non, frileux forcément parce qu'ils pouvaient pas investir dans ce type de concept. Ils ont donc demandé à Renault qui a accepté. Et c'est comme ça qu'en 84 sort le Renault Espace, qui était produit par Matra, donc dans leur usine de Romorantin, dans le Loir-et-Cher.
C'est
chez nous. Et Badger est vendu par Renault dans leur réseau. Donc le début, quand l'Espace sort, c'est compliqué parce que les gens sont pas comment dire, habitués à ça. Ouais. Mais cela dit, Renault y croit et ça marche.
Pour l'espace, c'est pour ça
que derrière il y a eu l'espace 2, il y a eu l'espace 3, qui a tellement bien marché que à un moment donné, la cadence elle est pas suffisante dans les usines de robots. Et face à cette folie des monospaces qu'on a connu dans les années 90, Renault se dit bon, vous êtes gentils les gars de chez Matra, mais cela dit, je pense que votre petite usine ça fait pas le poids face à ce qu'on voudrait avoir pour l'espace 4. Donc, l'espace 4, ça va être nous qui allons le produire chez nous, on va le concevoir, le produire.
Et puis vous autre chose.
Même rien.
Non,
c'est plus
rien. Vous démerdez, vous faites ce que vous voulez, vous jouez aux cartes.
En vrai, ils ont pas été si mauvais que ça chez Renault, c'est-à-dire qu'ils ont dit bon, on va peut-être vous trouver quelque chose. Alors, ils ont proposé une berline haut de gamme. Sauf que Matra ils pouvaient pas se permettre en fait de développer un concept de A à Z parce que ça coûtait cher hein. Et puis Matra, je rappelle, c'était une petite société de même pas de production mais de conception. Donc ils se retrouvent à la rue et là ils se disent tiens, on a une idée. Alors ils proposent à Renault de développer un nouveau produit mais sur la base de l'espace. Pour réduire les frais. Et en se disant les proprios d'espace d'il y a 15 ans, les premiers. Ils ont vieilli.
Peut-être.
Leurs enfants, ils sont partis.
C'est possible.
Donc, il leur faut un monospace coupé. Voilà. Et c'est là qu'on va voir que des fois, ils n'ont pas toujours des bonnes idées chez Matra.
Tu veux un truc à 7 places ?
Ouais.
Mais avec 2 portes.
C'est, alors, même pas 7 places. Là, c'était un 5 places. Mais ils n'ont pas forcément eu la bonne idée, là, pour le coup. Mais c'est comme ça que le coupé espace est né. Alors, il reprend le côté plutôt luxe de l'espace. Il est haut, il est monocore. Il y a certaines formes qui étaient... Parce que qui a dessiné l'avant-time, c'est Thierry Métrose, qui est maintenant le chef de chez DS. Des formes qu'on va retrouver sur d'autres modèles Renault. Je pense par exemple au décroché arrière qu'on avait aussi sur la Velsatis et sur la Mégane 2.
C'est vrai.
Ou même l'arche en alu, parce qu'elle est en biton. Et à l'époque, les bitons, on connaît pas. Hein.
C'est quoi un biton?
C'est-à-dire que tu as une couleur différente en haut
biton.
En biton. En biton, ouais.
Oui, parce qu'en béton.
Ah non, pas en béton, non, ça va être un petit peu trop lourd. Non, justement, c'est en alu, c'est léger, mais ce principe du béton, on va le retrouver par exemple aujourd'hui sur les captures, par exemple, ou d'autres modèles de la marque qui retrouvent exactement le même béton au même endroit. Oui, alors par contre, t'as raison, Teddy, c'est une voiture lourde. Il y a des portes. Alors, vu que c'est
extrêmement lourde,
il y a des portes extrêmement lourdes parce qu'ils ont voulu faire un grand coupé, mais avec des portes extrêmement longues qui font 1m40 de long.
Parce que c'est lourd, tu passes comment derrière? Tu passes pas. Hein.
C'est ça, et qui font 55 kilos. C'est énorme. Le toit ouvrant aussi, qui est le plus grand toit ouvrant du monde. Alors c'est très bien, mais ça coûte hyper cher. Et puis des ceintures intégrées dans les sièges parce qu'ils ont supprimé le montant central, qui est assez esthétique. Par contre, si tu supprimes le montant central, il faut bien mettre les accroches des ceintures quelque part. Donc dans les sièges. Donc si tu dois remplacer un siège d'avantage, ça te coûte un bras. Évidemment, voilà, tout l'ensemble de ces innovations coûtait cher. Donc
tout
c'est pour ça.
Cher.
Alors ouais, c'est non mais c'est ça. C'est-à-dire que déjà ça coûtait cher, ça a mis du retard sur la date de sortie parce qu'il fallait que tout ça soit au point. À la sortie, ils ont proposé qu'un seul moteur essence qui était un V6. Donc un V6, vous savez, c'est les gros moteurs qui coûtent plus cher qu'un petit 4 cylindres. Tout ça a fait qu'à sa sortie en 2001, acheter une Avantime, ça coûte un rein. On en avait pour 50 000 euros, ce qui est très cher actuellement et ce qui était encore plus cher à l'époque. Quoi.
Bah, du coup, tu gardes l'espace, hein.
Alors tu peux garder ton espace 3, effectivement. Mais bref, ouais, donc c'est cher, c'est lourd, c'est pas super bien fini, hein, faut l'avouer. Et puis c'est clivant dans une catégorie qui est très conservatrice. Hein, quand les gens qui achètent des voitures haut de gamme, souvent ils veulent des voitures tricor à l'ancienne.
Ouais, je suis d'accord.
Oui, non mais c'est vrai.
Je veux des tricor.
Non mais toi t'es pas un acheteur de voitures de luxe quoi, même si tu roules en Alfa Romeo 166, d'accord.
C'est vrai.
Il y a aussi quelque chose, c'est super important dans cette gamme de prix, c'est qu'il faut une image. Et là pour le coup il y avait pas d'image.
D'image de marque. Mais moche.
Non mais d'image de marque.
Ah oui.
C'est-à-dire que t'achètes une Renault. Alors que souvent t'achètes une BMW, t'achètes une Mercedes,
t'achètes une Audi, Alpha.
Une Alpha,
juste
voilà.
Juste ça suffit déjà à dire ah ouais.
Et 50 000 balles dans Renault, une BM, tu te le permets.
Oui, bah.
Alors que dans une Avantime, pas forcément.
Dans une Renault.
Et ça répondait finalement à aucun besoin. Donc ça se vend pas. On est sur des 4000 voitures vendues la première année. La Renault, bon, qui était plutôt optimiste quand même au départ, ils se disent oh ça va faire comme
ça,
le coup de l'espace,
ça
marche pas au départ et puis ça va marcher après. Sauf que clairement les gens étaient pas prêts.
Mais ils l'ont quand même décliné en plusieurs versions.
Alors ouais, en fait ils se sont dit que l'unique version V6 privilège c'était pas forcément hyper accessible pour tout le monde, donc après ils ont décliné en diesel. Parce que
en DCI 2 litres 2
et, ouais, et puis en 2 litres essence aussi, voilà, une version un peu plus moins haut de gamme, ça veut rien dire. Bref, tout ça pour dire qu'au bout de 2 ans ils ont dit stop. Voilà. On arrête les frais, et pourtant il y a Matra qui planchait sur une version restylée, hein, mais ils ont dit ça va pas être possible,
ouais,
les gars. Et c'est pour ça qu'en 2003, et c'est là qu'arrive la fin de mon histoire, après 8552 exemplaires, ce qui est quand même franchement pas beaucoup, la courte carrière de l'Avantime se termine. Ce qui a laissé sur le carreau les 1450 salariés de l'usine de chez Matra, puisque Matra a fermé. C'est l'arrêt de mort de Matra. Triste fin. Voilà. Bah, c'est d'autant plus dommage que c'est le plus gros échec commercial de Renault et de Matra d'ailleurs. Mais c'est quand même, je trouve, une voiture assez formidable sur certains points. Déjà sur le concept. Tu prends. Non, mais attends.
C'est audacieux, clairement.
C'est audacieux. Mais tu prends un coupé. Oui. Dans une voiture haute avec de l'espace intérieur.
Non.
Ça n'existait pas à l'époque, on est d'accord.
Oui, il y a plein de choses qui existaient.
Aujourd'hui, c'est pas si différent d'un SUV coupé.
C'est vrai que ça ressemble à un SUV.
Mais ouais.
Ça a le look de SUV.
Ils étaient à ça de trouver la bonne formule, tu vois, à deux doigts.
Ils l'avaient peut-être trouvé, mais trop en avance. Du coup, ça marche pas.
Avantime.
C'est triste.
Les vitres sont montantes. Le toit panoramique. Les phares. Le décrochage de la lunette arrière, le biton, il y a beaucoup de choses sympas là-dedans et qui ont été repris, on le disait, hein, sur certains modèles par la suite. Et puis l'intérieur, parce que moi qui aime bien un intérieur assez clair, lumineux, aéré, etc. Là,
c'est vrai que là c'est
ce
clair
que
et lumineux et grand.
Ouais, le tableau de bord il est chouette aussi.
Ça a même pas dit que tu touches les pédales pour te dire.
Ah, ça veut rien dire.
C'est méchant.
Mais non, mais même le style du tableau de bord, on est en 2021, 20 ans plus tard, il est pas démodé.
Ça passe nickel, ouais, clairement.
C'est confortable aussi comme voiture. Si tu la malmènes pas, ça part pas dans tous les sens. Après,
tu vas pas aller très vite de toute façon.
Bah, en V6, 210 chevaux, ça roulait. Après, c'était un petit peu bizarre de dire on va mettre un coupé sportif. mais qui pèse 2 tonnes et qui soit sur pattes, tu vois, c'est un petit peu antagoniste quoi. Non, rétrospectivement, je trouve que c'est une voiture qui ne pouvait pas marcher à cause de trop de choses concrètes ou d'autres qui étaient plus sociologiques, mais cela dit, elle avait du potentiel, ce qui a d'ailleurs permis à Renault et aux autres marques de s'en inspirer pour les voitures qu'on connaît aujourd'hui, et je pense notamment au SUV coupé.
C'est vrai.
Et là, j'en viens sur ma petite conclusion. Est-ce que la Bontime n'était pas simplement faite pour être un concept car? Parce qu'en fait, elle avait toutes les attributs d'un concept car.
Dans le look, elle est, enfin, dans beaucoup de choses, hein, pas que l'esthétique, ouais, mais dans beaucoup de choses visuelles, elle est, bah si, en fait, le visuel, elle est vachement concept car.
Ouais.
Concept car visuel.
En fait, il y a plein de choses. En fait, tu dirais que les mecs de chez
ils ont pété un câble, ils se sont dit tiens, on va dessiner ça, pouf.
Voilà, il y a eu que les mecs du design qui sont passés par là. Les mecs de la compta, ils ont dit allez les gars, vas-y, on mise tout, je suis sûr que ça va marcher.
Les mecs qui pensent à l'esthétique, enfin non, pas à l'esthétique, à. Aux
idées d'avenir, ouais.
À la vraie vie, tu vois, ils étaient pas là.
Ah non, ils étaient pas là, non, clairement. Mais en fait, ça en fait une qualité, tu vois, qui pourrait être des bonnes qualités pour un concept car, et ce sont un peu les principaux reproches qu'on peut faire pour une vraie bagnole, voilà. Ouais, donc ça annonce l'avenir, il y a des bonnes idées, mais en l'état, c'est pas exploitable.
C'est vrai.
Et ça demande à être plus mature, ce qui n'a jamais pu être le cas. Et comme on dit, avant le time, c'est plus le time. Après le time, c'est plus le time.
C'est fini.
Voilà. Ça résume un peu bien l'histoire, quoi. Cela dit, le fait d'avoir sorti un concept car, on va dire, sur route, ça en fait une voiture qui, avant même qu'elle soit arrêtée, était déjà un collector. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait déjà des clubs avant time qui existaient, des forums, des fans, une vraie commu qu'on n'a pas sur la plupart de la production automobile mondiale. C'est un petit peu une pépite automobile, en fait, cette Avantime, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on la met dans le garage starter ce soir. Ah,
une pépite, je sais pas. Mais bon,
de certaines manières.
Si t'as envie de t'en acheter une.
Ouais.
Imaginons, voilà, on t'a convaincu, tu veux une Avantime. Tu peux en trouver à pas très cher, en vrai. En moyenne, c'est 12 000 euros.
Ça va.
Ça reste raisonnable.
C'est la moyenne ou c'est la moyenne haute, ça? J'avais l'impression que c'était un peu moins cher, même.
C'est la moyenne plutôt haute.
D'accord.
C'est pour 100 000 km.
Ouais, tu veux une voiture pas kilométrée, en bon état.
Même si, de base, toutes les Avantime, elles sont pas très kilométrées. Hein. J'en ai vu, ça allait à 150 000, 170 000. Pas trop dessus.
Ouais, ce qui va pas mal quand même pour un moteur essence, 170 000. Bon, elle est pas usée,
c'est
mais
pas
bon.
Mal.
Ouais,
mais j'ai pas fait la différence entre diesel et essence. J'avais laissé le Avantime tout court.
Ok.
Donc, effectivement, oui, il y a ça aussi qui joue.
Et est-ce qu'une V6 vaut plus cher qu'une DCI par exemple?
En moyenne, un petit peu.
Ouais.
Mais par exemple, sur la centrale, je vous en ai trouvé une, et un V6, à 8500 euros, 150 000 km. En version privilège, évidemment, 24S.
Ouais, 24 soupapes.
J'imagine. Mm-hmm. Je sais pas ce que ça veut dire, je compte sur toi pour le dire.
Certainement.
Mais oui. Pas cher, en très bon état, en vrai. Franchement, 8500 euros, c'est une bonne affaire.
Allez-y, foncez si vous voulez une Avantime. Bah ouais.
Et il y en avait une autre aussi en DCI, à 8000 euros, à 120 000 km. Franchement, 2 litres 2 en plus, pas le 2 litres.
Ouais.
C'est une bonne affaire aussi. Elle est dans le 77, celle-là, pour le coup.
D'accord.
Ça, je sais plus où c'est.
Bah, allez vous faire plaisir.
Voilà. Mais oui.
Antoine, pour terminer, tu voulais rajouter des petites choses sur le design, par exemple, de l'Avantime, ou des choses qui t'ont plu ou déplu, hein, en règle générale?
Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont repris le coffre pour la Mégane 2.
Et t'aimes bien se décrocher, ouais, la façon.
J'aime bien ce petit cul de l'Avantime, comme ça.
Ah, on a tous le droit d'avoir mauvais goût.
C'est... Nah. Ouais, c'est juste là. Non, mais j'avoue que je trouve ça assez original. Après, c'est vrai que c'est pas pratique. Alors, sur l'Avantime, on s'en fout parce qu'elle a un immense coffre. Après, c'était un reproche qui a été fait sur la Mégane 2, par exemple.
J'aime bien aussi, c'est le mode plein air. Oui. T'as tout qui s'ouvre en même temps.
Alors, c'est quoi? C'est en fait, t'as parce que.
T'as y a
le toit ouvrant qui est gigantesque qui s'ouvre. Mais pas que.
Ils appellent ça le bouton magique.
Ouais.
Donc, t'as le toit ouvrant qui s'ouvre, plus les vitres quoi, là, qui s'ouvrent en même temps.
D'accord. Et oui,
je peux vitres... faire pareil avec ma bagnole. Hein.
Non, parce que là c'est les vitres avant et arrière et t'as pas de montant entre les deux. Donc t'as l'impression, alors je vais pas dire que ça ressemble à un cabriolet, mais une sorte de targa quoi. Avec le toit plus les vitres, ça te donne un côté vraiment, t'es à l'air libre.
Consommation d'essence après.
Qu'est-ce que c'est qu'un targa?
Quand tu veux dire quand c'est ouvert?
Ah oui, quand c'est ouvert, mais ça a consommé. Mais...
Oh, en règle générale, tu consommes 5% quand les
vitres. Un peu plus. Bah, là, un peu
mais là,
plus,
oui, ouais. Ça sera un peu plus.
Il y a quelque chose qui est assez original aussi, c'est que, alors ça, c'est une question de mise de conception, c'est que quand tu ouvrais ta porte, en fait, tu le fais en deux temps, c'est-à-dire que tu lèves ta poignée et puis après tu tires ta porte. Et là, quand tu le faisais, en fait, quand tu soulevais la poignée, ça te baissait la vitre de 2 cm en fait pour que la vitre ne cogne pas après sur les montants. C'était fait en deux fois, clac, la vitre se baissait et tu pouvais ouvrir ta portière.
T'imagines, enfin, ça bug.
Fallait pas être un enfant parce que je rappelle qu'elle faisait 55 kilos la portière, donc tu soulevais ta portière. Quoi.
Fallait pas être un peu faiblard du bras.
Non, pas du tout.
Vraiment, ce qui est dommage, c'est que la portière ne s'ouvrait pas en grand.
Non, et alors, il y avait.
Bah, en même temps.
Oui,
ça... fallait avoir des putains de vérins.
Ils ont fait une double vérins, articulation pour la portière.
Bah ouais,
donc ça, c'est pareil, ça a mis des lustres à être conçu et en plus ça a coûté un bras parce que c'est des choses qui normalement on les produit pas sur les voitures de série tout ça. Mais en fait, ils ont mis une double articulation, ce qui faisait que la portière ne s'ouvrait pas hyper grand, mais en même temps, sinon on arrivait sur le parking d'à côté. Hein, mais elle supportait le poids de cette portière et
ouais,
l'intérieur, en fait, l'habillage de l'intérieur de la portière était découpé en deux pour pouvoir avoir cette double articulation. Ce qui était vraiment un truc... Les mecs de la compta, ils seraient passés par là, ils auraient dit non, les gars, c'est pas possible.
Je me demande même si ce serait pas un défaut maladif de la downtime. La portière qui...
s'affaisse.
La charrière, ouais, qui...
À mon avis, elle doit s'affaisser un petit peu quand même, ouais.
Starter, l'aventure automobile, c'est jusqu'à 22h sur Indestar.
C'est faux, c'est jusqu'à bien plus tard. Bienvenue et merci d'avoir choisi Indestar ce soir en tous les cas pour passer la soirée avec nous dans Starter, émission automobile d'aventure automobile, automoto hein, d'ailleurs on est au sens large. On a pour terminer les insolites. Alors là, on fait le tour de la toile hein, et on se dit, ah tiens, ça c'est marrant. Et Antoine, tu nous as trouvé quelque chose de marrant
ce soir. Ouais.
Ouais.
On vient de partir aux États-Unis avec la musique, et ben on va rester aux États-Unis.
D'accord.
Donc il y a un mariage en Californie et il y a le propriétaire du, enfin il y a le marié qui a eu l'idée de prendre son pick-up et faire les tours aux gens. Et vu que oui. Personne voulait s'asseoir correctement, il a essayé d'accélérer un grand coup et tout le monde est tombé derrière.
Oh non.
Mais il n'y a aucun blessé. Hein.
Ah bon, bah ça va. Alors, oui. Et ça a été pris en photo.
Oui, oui, il y a une vidéo.
C'est vrai.
Oui, j'ai
vu. C'est une vidéo virale maintenant.
Oui, bah j'imagine que
on
ça avait le buzz.
On pas très long, ça.
Le marié complètement pété qui fait tomber tous ses invités de son pick-up.
C'est ça.
Ouais. Trop bien.
Malheureusement.
Il écrase personne, c'est dommage.
J'espère pas. Non, mais personne n'était blessé dans l'histoire, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, c'était l'insolite de la semaine. On passe au
Starter, le sondage.
Merci, monsieur. Le sondage du jour qu'on vous met. Dès les prochaines minutes sur les réseaux sociaux en story, manger au volant. Alors c'est quelque chose qui est, on va dire, toléré dans certains cas.
Je connais.
Tu connais, tu bouffes au volant toi.
Oh, j'ai eu un accident dans ça.
Ah oui, non, donc, voilà. Justement, est-ce que vous trouvez ça normal ou dangereux?
Normal.
Teddy témoigne. Non, toi tu serais, pourtant tu dirais normal.
Je le fais quand même.
Ah, tu le fais quand même.
J'ai mangé les fraises tagada la dernière fois.
Ouais, mais alors après ça dépend ce que tu manges. C'est-à-dire que la choucroute au volant, c'est pas conseillé.
Oui, la soupe non plus. Tu vois,
la soupe non plus.
C'est chaud quoi.
Les fraises tagada, ça se tente.
Le café, oui. Ah oui, les
le café, non. Ouais. Ouais. En fait, on va faire un tableau, tu sais, avec les aliments qu'on peut consommer en voiture et les aliments, c'est déconseillé.
C'est ça.
Donc le café, non. Les fraises tagada, oui.
Tout sauf ce qui est liquide, non. Trop tout de sucre, ce qui est bon, oui. Ouais, mais c'est bon pour les voitures.
Pour la voiture, ça va. Par contre, pour le dentiste, ça va beaucoup moins bien.
Ouais, c'est vrai.
Bon, on vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal ou dangereux? Vous avez les prochaines 24 heures pour y répondre. Cette émission est retrouvée en podcast sur toutes les plateformes internet. Également à suivre la chaîne YouTube. Inscrivez-vous, abonnez-vous.
On veut être 200.
On veut être 200, on veut même être 300. J'attends les 300 avec impatience. Parce
moi,
qu'on
je veux les
555. Ouais, les 5 555.
Non, 555.
Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.